son vieux par-dessus râpé.
J'ai essayé de trouver un truc qui parle à Wilfried Galland qui connaît pas bien le rap et les chansons récentes, donc j'ai trouvé Daniel Richard, ça vous va ça?
Ah, c'est parfait pour l'archéologie, c'est impeccable.
C'est reparti, on reparle à nouveau réforme des retraites, enfin j'ai envie de dire, on évoque un report de l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Alors il faut savoir que la retraite, évidemment, c'est une de vos préoccupations majeures, c'est pour ça qu'on en parle dans C'est votre argent, parce que c'est une des raisons pour lesquelles le taux d'épargne est aussi élevé. Alors, est-ce qu'on a besoin, Sophie, d'une réforme des retraites? Est-ce qu'on a une chance qu'elle aboutisse?
Alors, besoin, ça c'est vrai que c'est une appréciation. Quand on regarde vraiment les chiffres, c'est sûr qu'à moyen, en tout cas à court terme, on n'a pas un besoin, parce qu'il n'y a pas de problème dans le système de financement. Par contre, à moyen long terme, et c'est un peu tout le débat sur cette réforme, c'est dégager des marges de manœuvre et dégager des financements pour financer aussi d'autres choses, et notamment d'autres transitions, et bien sûr, on pense à la transition écologique. L'idée aussi, c'est d'avoir un impact sur le taux d'emploi des seniors, hein, qui est assez faible en France par rapport aux autres pays européens, et c'est vrai qu'on voit que lorsque l'on augmente l'âge de départ, eh bien mécaniquement on a un décalage. Donc là aussi pour le gouvernement qui a un objectif de plein emploi à 5 ans, ça peut être un moyen d'augmenter hein, ce taux de chômage des seniors, essayer de le combattre pour avoir en effet plus d'activités qui soient créées et essayer d'aller vers les 5%, puisque aujourd'hui on est plutôt à 7,5% de chômage, donc on est encore très loin du plein emploi.
Et quand vous dites à court terme, ça m'étonne, quand vous dites à court terme, il n'y a pas de sujet.
À court terme,
Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait quand même un sacré déséquilibre entre le nombre d'actifs et d'inactifs. Que ce déséquilibre est en train de s'accroître et qu'en plus la durée de vie à la retraite, je rappelle quand même que l'âge de la retraite a été fixé à l'espérance de vie de l'époque et aujourd'hui on a 20 à 25 ans de durée de vie à la retraite.
Tout donc, à fait, c'est pour ça qu'il y a le débat de dire, étant donné qu'on vit plus longtemps, il faut augmenter l'âge comme on fait les voisins européens. Après, moi c'est vrai que je suis toujours un peu gênée dans ce débat en France parce qu'on se focalise beaucoup sur l'âge de départ. Déjà l'âge effectif de départ c'est 64 ans, c'est pas 62 ans. Et quand vous regardez dans les études, à mon sens, ce qui est beaucoup plus important c'est vous partez à combien. C'est votre revenu à la retraite qui conditionne votre départ. Donc c'est vrai que très souvent on se focalise sur les 62 ans, mais en général voilà, les gens ne partent pas à cet âge-là et quand ils veulent partir à cet âge-là, ils n'ont pas forcément toute leur retraite. Donc la question, c'est le financement et quelle part de revenus du PIB on décide d'octroyer aux retraites. Et donc, à très court terme, on voit qu'on a la part des retraites dans le PIB reste assez stable, hein, finalement. Et la question, c'est est-ce qu'on aura un décroissement avec l'inflation plus important par rapport aux actifs? Donc, ça veut dire peut-être revoir le mode de financement. Et là, en effet, les débats sont ouverts. Ou on reste dans cette situation à court terme, où en effet, on n'a pas forcément de problème de financement. C'est-à-dire que les gens vont continuer d'avoir leur pension. Mais par contre, à moyen long terme, eh bien, c'est des marges de manœuvre budgétaires qu'on n'a pas pour autre chose. Donc ça dépend en effet comment on le voit, mais c'est vrai que là aussi au niveau européen, c'était une réforme qui avait été très vendue par le gouvernement en disant voilà, ce sera la réforme.
C'était très attendu. Hein.
Très attendu, notamment concernant la soutenabilité de nos finances publiques, ça avec l'assurance chômage. Et je pense qu'il y a aussi pour le gouvernement, de fait, l'idée de mettre en place cette réforme, même si elle est à minima, puisque...
Elle est à minima.
Par rapport aux ambitions qui étaient la première version, on va dire oui, mais en tout cas, ça permet quand même de ressortir par le haut et de dire on a fait une réforme des retraites.
Oui, Fried, on va y arriver?
Moi, je pense qu'on va y arriver parce que déjà, c'est autant, et je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est autant politique qu'économique, la réforme des retraites. Le signal politique est extrêmement important. Une réforme des retraites, c'est un peu le Grand Prix de l'Arc de Triomphe pour les gouvernements. C'est réussir sa réforme des retraites, c'est être sûr de marquer l'histoire. Et quand on s'expose autant que l'a fait Emmanuel Macron dans sa campagne en agitant le chiffon des 65 ans, c'est-à-dire de facto, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est revenir sur le mitterrandisme, c'est-à-dire en fait effacer les grandes réformes de 81, c'est quelque chose qui est un signal, et le signal politique, et c'est là où on rejoint l'économie, c'est le signal politique sur le travail. C'est le signal politique de dire il faut travailler plus. Et on sait que économiquement en France, on n'a pas du tout de sujet sur la productivité des actifs. Ça, on n'a pas de sujet.
Sujet de temps de travail.
On n'a pas de sujet sur le temps de travail des actifs qui ont un emploi. Ça, c'est pas un problème. Au contraire, même. En revanche, on a un problème de volume de travail général dans l'économie. Et repousser l'âge de la retraite, c'est dire à un des paramètres, c'est effectivement de faire travailler les gens plus longtemps. Et donc, repousser les curseurs, c'est être capable de dire l'aspiration à la rente que vous pouvez peut-être légitimement avoir en disant la retraite, c'est finalement la rente pour tous, cette espèce d'aspiration du français du 19e siècle qu'on a toujours eu en France. Eh bien ça, c'est progressivement en train de changer. Il va falloir, pour maintenir notre niveau de vie, travailler plus. Et donc, à côté de la réforme, par exemple, de l'assurance chômage, à côté de la réforme de l'apprentissage, le troisième volet, c'est effectivement dire il faut avoir cette espèce de push sur la partie senior. C'est un peu plus compliqué, probablement, que juste agiter une mesure d'âge, mais au minimum, on est en train de le faire.
Juste pour répondre rapidement, une rente, il faut faire attention
vous a coupé
parce que les salariés ont quand même cotisé toute leur vie, donc on n'est pas dans un système de rente.
Mais c'est un système, en fait, c'est un état d'esprit.
Il faut faire aussi attention de la manière dont on le présente, parce que c'est un peu, on permettra aux gens qui veulent de travailler plus. Le problème, c'est que beaucoup de seniors de plus de 55 ans veulent travailler plus, mais ils ne sont pas embauchés par les entreprises.
Donc ça aussi, Louis de Montalembert.
Moi, je trouve qu'il y a une absurdité dans ce débat, c'est que finalement, évidemment, qu'il faut allonger le temps de travail. Quand on a lancé la retraite en 46, il y avait 26 cotisants pour un retraité. Mmh. Aujourd'hui, on est peut-être à 2 cotisants et demi pour un retraité. Mais cette espèce de totem de l'âge de départ à la retraite me paraît totalement absurde. En fait, c'est le nombre de trimestres, c'est le nombre d'annuités qui compte. Et finalement, on est en train de dresser ce totem qui ne règle aucun problème. C'est véritablement le nombre d'années de cotisation.
Ça en règle quand même un peu.
Oui, mais c'est totalement inégalitaire si vous avez des gens qui ont commencé à...
Oui, mais évidemment, mais de toute façon, il y a pas mal d'aménagements qui sont prévus quand même.
Pourquoi ne pas juste se focaliser sur le nombre d'annuités? Le nombre d'annuités est ce qui devrait régler le problème de manière substantielle. Et il sera nécessaire.
Éric Lewin.
Moi, je pense qu'il faut vraiment faire cette réforme des retraites. On est quand même le pays au monde où on reste le plus longtemps à la retraite. En Corée du Sud, c'est 12 ans. Aux États-Unis, c'est 18 ans. Nous, on reste en moyenne 25 ans. Après, il y a un gros problème sur l'emploi des seniors. Je regardais les statistiques. Il y a 56% des seniors entre 55 et 64 ans. C'est-à-dire notre tranche d'âge, marque, qui travaille. Et sinon, la moyenne européenne est à 61%. Et en Allemagne, on est à 71%. Et la grande problématique, c'est pourquoi les chômeurs ne travaillent pas. C'est pourquoi les seniors ne travaillent pas. C'est sûr qu'on n'a pas envie de les employer, mais il y a quand même une durée d'indemnisation du chômage qui est hallucinante. Pour notre part, nous, si on est viré demain, on a 3 ans d'indemnité de chômage. Donc, il faudrait aussi peut-être changer toutes ces pistes pour faire en sorte que les seniors soient intégrés dans les sociétés, quitte à ce qu'il y ait des exonérations fiscales, mais aussi faire en sorte peut-être diminuer cette durée d'indemnisation du chômage qui incite les gens finalement à être 3 ans au chômage, puis après en pré-retraite.
Et quand on dit, Anne-Sophie, que les Français, en fait, il n'y a pas de système de capitalisation, enfin, moi je ne suis pas du tout d'accord en France. Parce que, en fait, finalement, on est dans un système de retraite par répartition, mais les Français eux-mêmes n'arrêtent pas d'épargner. On a créé des produits, l'assurance vie, c'est
l'immobilier surtout.
L'immobilier, l'assurance vie, maintenant le PER. Est-ce que finalement c'est pas nos fonds de pension à nous, quoi ?
Complètement. Le problème de ça, c'est que c'est assez inégalitaire parce que quand on regarde justement le niveau de vie des retraités, on voit 80% sont propriétaires, donc ça il faut vraiment le dire. Mais par contre, pour les 20%, là vous pouvez avoir vraiment de grandes difficultés quand vous tombez à la retraite avec la baisse de votre revenu si vous n'êtes pas propriétaire. Et le problème, c'est que dans ces 20%, vous avez une majorité souvent de femmes qui ont des revenus qui sont beaucoup plus importants, de familles monoparentales. Donc vous avez en fait une trappe à pauvreté que vous aviez déjà quand vous étiez actif et qui va s'aggraver quand vous tombez à la retraite. Et c'est ça qui est assez compliqué, qu'on n'arrive pas trop à cibler dans les réformes. L'idée, c'est vraiment, parce qu'en effet, souvent les gens ont du patrimoine et donc beaucoup n'ont pas de
problème. Je dis ça parce qu'on a eu le chiffre d'épargne de l'INSEE,
16,6%,
alors qu'on est en période d'inflation, alors qu'on est en période de reprise de la consommation post-Covid. C'est dingue.
C'est dingue, mais le problème, c'est que derrière, ça c'est le chiffre macro, il faut voir qui épargne et aussi qui a un tel niveau de retraite. Donc ces catégories-là, elles n'ont pas pu épargner et pendant le Covid, et là prennent absolument tout de l'inflation, et en plus on rompt souvent avec des carrières hachées ou des arrêts, et bien des baisses de salaire plus importants, et donc une pension qui sera beaucoup plus faible. Donc ça, vraiment cumulé, c'est vrai que le chiffre global comme ça macro paraît intéressant, mais c'est excessivement dur, en tout cas pour ces 20% de retraités, il peut vraiment y avoir un déclassement important. Et quand vous dites au niveau de l'assurance chômage, ils sont trop indemnisés, bon déjà il y a une réforme là,
quand elle me dit ça, j'ai très peur.
C'est le professeur. Elle est professeur.
Je vais avoir une mauvaise note.
Elle est à l'école. C'est le professeur. Vous avez
Vous n'aurez pas
la moyenne.
Il y a déjà une réforme, donc là, ça va dans le sens de moins les indemniser. Mais là encore, quand on regarde l'efficacité de ce genre de politique publique, ça marche très peu. C'est-à-dire que vous allez moins les indemniser. Souvent, il va y avoir une période de précarité très importante qui, à 55 ans, est très 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 mal vécue et très stigmatisée socialement. Et c'est pas comme ça que vous allez retrouver un emploi.
Wilfried, est-ce que juste très rapidement, est-ce que vous êtes frappé comme moi? Moi, je suis frappé par le taux d'épargne des Français.
Oui, moi je suis aussi frappé. Pour moi, ça revient à la vieille mentalité effectivement paysanne française, qui dit face à l'incertitude, surtout, il faut garder une poire pour la soif.
Oui, mais donc, face face à l'incertitude, mais c'est la même chose quand ça va bien aussi. C'est-à-dire que quand ça va bien, on est au top. Quand ça va mal, on est au top. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est une obsession, quoi.
Quand ça va bien, on est à 14%. Quand ça va mal, on est à 16. Et effectivement, et on raisonne en plus, comme le disait Anne-Sophie. Non, mais en fait, on raisonne en plus sur la partie moyenne. C'est-à-dire que c'est dire qu'on est en train de monter le taux d'épargne en ce moment de 2 points, c'est en fait quand même un effort, si c'est un effort moyen, qui est considérable.
Ouais, surtout en période où le pouvoir d'achat est sous pression.
Exactement, on pourrait imaginer qu'on a justement cette incitation à consommer beaucoup plus en période d'inflation, alors que finalement, ça accroît les incertitudes, et c'est la levée des incertitudes qui peut nous permettre de...
Marc, juste un mot. L'épargne retraite en France, c'est 12% du PIB, la moyenne en Europe, c'est 90%.